Ce cours dédié à la réfoua de Jeannette Bat-Kami Zetoun, le Tor Koshar Cholotam Israël dans le Klal, dans la collectivité de tous les malades d'Israël. On a vu la dernière fois un cours sur Rosh Hashanah. La date se rapproche, c'est moins de 10 jours. Et les choses dont on va parler durant ce cours-là encore, qui sont, disons, la compréhension profonde mais basique de ce que c'est que ce jour-là, comment se comporter à ce jour-là, je commençais à exposer deux trucs. Des trucs, c'est-à-dire que, comme j'expliquais rapidement la dernière fois, c'est un jour de din, un jour de rigueur de la justice divine, dû à l'attribut de justice, l'attribut de miséricorde. Chesed et din. Chesed, c'est la miséricorde, din, c'est la rigueur. Maintenant, nous devons tout faire, on va voir quelles sont les choses que fait le peuple d'Israël durant cette fête-là, pour faire en sorte que, on appelle ça les matek tadinim, adoucir les dinim, adoucir la rigueur. On verra tout ce qu'on fait, ça c'est ce que la halakha, les lois de Rosh Hashanah. Mais il y a deux trucs supplémentaires, à part la tchouva, bien sûr, la tchouva, ça c'est préparation basique, arrivé, tu vas te faire juger, prépare-toi. Mais préparation supplémentaire à la tchouva, qui font qu'on peut éviter, quelque part, la rigueur de la sentence. Alors, la première chose, je l'ai exposée la dernière fois, c'est rentrer dans la collectivité du peuple d'Israël. Par le fait que je me sens appartenir au peuple d'Israël, je m'inquiète, je pleure la douleur d'Israël, je me réjouis la réjouissance d'Israël, je prie pour Israël, j'aide Israël. Et Israël, c'est aidé bien sûr de façon physique, mais aussi surtout de façon spirituelle. Quand quelqu'un, dans son contenu de la Torah, pour le peuple d'Israël, il agit. Quand quelqu'un fait une bracha avec kavana, avec intention, bien comme il se doit, il agit pour le bien d'Israël. J'ai marqué que celui qui mange sans bracha, alors c'est comme s'il vole le peuple d'Israël. Il vole le flux qui revient à Israël. A le contraire, quand tu fais une bracha comme il se doit bien, tu amènes un flux au peuple d'Israël. Si quelqu'un, et c'est relativement facile de rentrer dans cet esprit-là, et ça nous facilite aussi le fait de servir Dieu dans l'amour, dans le Shem Shamayim, de façon désintéressée. Quand quelqu'un prend sa bracha, attends, je fais la bracha bien, bon, j'irai au paradis, j'irai moi en enfer, c'est bien pour moi, ok, c'est petit. Quand tu penses à la bracha maintenant, mais ça aide le peuple d'Israël, ça aide en ricochet toute l'humanité. Ta bracha, elle a une autre dimension. Service. Dans nos mitzvot, d'accord, quotidien, et spécialement maintenant pour le jour du jugement, Rosh Hashanah, de s'insérer dans la collectivité du peuple d'Israël. Ça, c'est la chose que j'ai dit la dernière fois. Je continue maintenant le deuxième truc. Quel est le deuxième truc?
Excusez-moi, c'est maintenant, ça veut dire, ou c'est le jour de Rosh Hashanah?
C'est bien durant toute l'année, c'est encore plus important maintenant dans les jours de préparation à Rosh Hashanah, et encore plus important à Rosh Hashanah. Et tu verras que dans les prières de Rosh Hashanah, on ne prie que pour Israël, pour Dieu, Israël. Bon, pour la manifestation de Dieu sur terre, c'est le peuple d'Israël. Que le mal disparaisse, que tout le monde reconnaisse que le peuple d'Israël est le peuple qui véhicule la divinité, qui manifeste la divinité dans le monde. C'est ça le sens de nos prières. Donc, toute l'année, encore plus maintenant, et surtout à Rosh Hashanah. Deuxième truc. Dieu va nous juger. Dieu va nous juger comme nous jugeons. Et là, il y a ici une porte d'espoir énorme. C'est pas moi qui le dis, c'est marqué dans le traité Rosh Hashanah. Donc c'est un truc que nous donne la Gemara. Hamavir amidotav, maverim akol pshav. Celui qui passe outre ses midot. Midot sont ses mesures. C'est-à-dire sa façon de se comporter avec les autres. Il y a des mesures. C'est-à-dire, je supporte, mais là je ne supporte plus. Il y a des mesures. Au bout d'un moment, tu dépasses la mesure. Celui qui va passer outre sa mesure. Lui dit, ok, je veux bien supporter une fois, mais supporter deux fois, mais trois c'est trop, ou quatre c'est trop, ou 400 c'est trop. D'accord? Alors il y a une mesure. Si lui maintenant va passer outre, il va laisser passer, il passe l'éponge. Au même moment, la justice de Dieu exige qu'on se comporte avec lui comme il se comporte. C'est ça être juste. Dieu ce jour-là, il est juste. Il faut lui demander, sois gentil, il n'y a pas gentil. Il y a justice. Je vais expliquer peut-être un peu après pourquoi est-ce qu'il soit gentil, Dieu, pourquoi il veut tellement digne. On va peut-être en parler. Quoi qu'il en soit, il est digne. Il est justice rigoureuse. Si moi maintenant, lorsque je peux être dans la justice avec mon prochain, et je me déplace, je prends un comportement de chesed, de passer outre, bien qu'il ne mérite pas, ce Gugus il m'a fait des histoires. Et je dis vraiment, oh, allez, m'énerver très tout rouge. Je reste calme, je passe outre, je me fais marcher dessus, carpette. Carpette. Vient le jour du jugement. Qu'est-ce qui se passe le jour du jugement? Alors c'est marqué Malchuta d'Erkia, Ke'en Malchuta d'Ara. La royauté du ciel est comme la royauté de la terre. Dieu a créé dans ce monde-ci un système de royauté. T'as un roi, t'as des tribunaux juridiques, t'as une justice, t'as un avocat de la défense, t'as un avocat de l'accusation, il y a des délibérations, il y a une sentence. Pourquoi le monde terrestre, il fonctionne comme ça? Il a l'image du monde céleste. Pour que moi, je puisse me préparer, savoir comment ça se passe quelque part. Alors, évidemment, les petits-enfants croient que vraiment, il y a l'ange qui est là et l'ange qui est là. Il ne faut pas... Ce sont des choses imagées. Mais il y a une réalité impalpable, spirituelle, qui s'appelle le din, la rigueur, et une autre qui est rachamim sous chesed, donc la miséricorde. Et ce sont deux voies de conduite qui existent. La justice, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire, ce type-là, il a fait des erreurs dans sa vie. Il a fait des péchés, vous savez, c'est très bien que c'était interdit. Et malgré tout, il a fait comme ça, il a continué. Il doit. Et contre qui il a fait ça? Contre Dieu. Il doit trinquer. Nous exigeons une sentence terrible. Mais la défense, oui, mais circonstance atténuante. Mais non, il savait très bien, tout ça, on l'a rappelé, entendu les cours, il savait très bien, malgré tout, il a refait, on l'a donné une chance, il est retombé, et tac, 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 ça va jusqu'à quand? Il faut un grand bout, une bonne leçon qu'il apprenne une fois pour toutes. La défense est de trouver maintenant un argument. C'est comme ça que ça se passe vraiment. Très vite, mais ça a lieu. On va juger. Chacun exactement d'où il vient, son background social, son background génétique, son éducation, tout, l'intelligence, l'âme qu'il a, tout ça est mis en relief, en ligne de compte, pour le jugement du Dieu qui soit le jugement le plus équitable possible. Et là, on n'a pas de chance, parce que l'avocat de l'accusation, il sait bien parler, c'est un bon avocat. Et on n'a pas beaucoup... On a aussi un bon avocat de la défense, mais qu'est-ce qu'il va nous dire? T'as péché, mon vieux, t'as péché, qu'est-ce que je peux dire? C'est quand il veut dire, de sang-froid, devant 10 personnes, on dit, attention, tu vas tuer. Non, je m'en fous, ne la tue pas, je m'en fous. Il prend son poignard, il la tue. On l'attrape. Attends, il vient devant le juge, qu'est-ce qu'il va dire? Je ne savais pas. Il faut que l'avocat de la défense, il ait une argumentation assez bonne pour en faire un fou ou quelque chose, enfin, circonstance atténuante valable. Qu'est-ce qu'on va faire? Si moi je me comporte avec mon prochain de même, que j'ai 10 000 bons arguments pour l'enfoncer. L'enfoncer, c'est d'abord rien qu'en penser. J'ai vu quelqu'un qui a fait un acte que je peux juger favorablement ou défavorablement. Je juge favorablement. J'ai dans ma tête. Deuxième chose, il m'a fait du mal. C'est clair, il n'y a pas favorable. Je n'avais pas de doute, je suis certain. Il m'a fait du mal. D'après la justice, j'ai droit. Je peux faire un tribunal rabbinique, je peux lui rentrer dedans, j'exige des excuses, j'ai le droit à faire beaucoup de choses. La justice. Je ne suis pas méchant, je suis juste. Je suis juste. Dans le ciel, on va dire, t'es comme ça, sans avec toi, justice, très bien. Justice, tu demandes justice, qui est justice? Toi aussi, tu nous vois beaucoup dans le ciel, et d'après justice, on devrait t'esquinter pour toutes les bêtises que tu as faites durant cette année. Mais si moi maintenant, avec mon prochain, je passe outre, je m'écrase, et je bouillonne intérieurement, mais je m'écrase, alors qu'est-ce qui se passe? Dans le ciel, la justice va dire. D'après justice, je devrais lui rentrer dedans. Mais lui, dans sa justice, lorsqu'on est redevable envers lui, il s'écrase. Donc moi, maintenant, j'ai plus qu'à m'écraser. La justice elle-même s'écrase. Car il est juste que quelqu'un qui réfrène l'attribut de din, l'attribut de justice envers l'autre, qu'on réfrène l'attribut de justice. Oui, mon cher ami.
Est-ce que c'est possible parfois que de réagir comme ça avec quelqu'un, ce serait plutôt l'enfoncer que de l'aider. C'est-à-dire que si une personne, en fait, elle fait tout le temps du mal aux gens et qu'on finit tout le temps par s'écraser devant elle et lui dire que bon, pardon, etc., elle ne pourrait pas penser qu'elle a raison et continuer.
La question, elle est comme ça. Qui maintenant réagit ? L'estomac ? Les tripes ? Ou l'éducateur ? Quelqu'un m'a fait du mal. Il existe qui est justice. D'habitude, dans 99,9% des cas, c'est là-dedans. Les tripes. Alors, l'éducateur, c'est 6 mois plus tard. Quand l'histoire est oubliée, on n'a strictement rien à faire. Maintenant, je pense, d'après l'éducation, qu'il serait bien d'aller et de lui donner une leçon éducative. Le mieux, ce ne sera même pas toi, quelqu'un d'autre qui le fasse. Et toi, tu lui dis, écoute, ce serait bien de son rave ou quelqu'un. C'est vraiment pas le choix, on va dire à un mari et sa femme, ok, mais c'est des choses qui sont très délicates. D'habitude, c'est on a encore un ressentiment dedans qui va être habillé par l'éducateur. Tu as le lion qui veut bouffer, d'accord, mais tout d'un coup, il devient éducateur avec un chapeau comme ça, une petite baguette, d'accord. Il devient éducateur, mais c'est un lion déguisé. Et le type en face, il n'est pas bête. Ne joue pas au lion, parce que je suis une panthère. Et pff, on se bouffe on se bouffe. Donc, si effectivement, pour répondre à ta question, quelqu'un vient, que Dieu peut le scanner, c'est vraiment les Shem Shamayim que tu viens pour un but éducatif, complet, que tu viens maintenant éduquer l'autre, c'est très bien, c'est tout à fait légitime. Mais si maintenant, c'est encore maintenant, t'as pas vu la pilule et tu veux quand même marquer le point, ben dans le ciel aussi, mon cher ami. Donc on a ici, messieurs, une porte d'espoir énorme pour venir Yom HaDin. Si quelqu'un a la chance durant les 10 jours qui suivent maintenant, ou jusqu'à Yom Kippour, quelqu'un vient lui faire un truc terrible, une honte en public. Le met hors de lui, lui pique ses joues, je sais pas, n'importe quoi. Et lui reste impassible. Plus il a de la joie. C'est un cadeau extraordinaire de Dieu, parce que c'est marqué, celui qui m'avir amidotav, il passe outre ses mesures, m'avirim, on passe outre, kol peshav, tous ses péchés. Vous savez qu'il y a 3 niveaux, il y a chet, c'est un péché involontaire, il y a avon, c'est un péché volontaire, il y a pesha, c'est pas volontaire, c'est exprès. Tu as le choix maintenant, 2 morceaux de viande, un cacher et un pas cacher, tu prends exprès le non cacher. C'est le même goût, le même prix, rien pour embêter. Celui qui passe outre ses mesures, on passe outre tous ses péchés. Péchaïm, c'est les pires. Même ça, tout effacé. C'est-à-dire que si ça veut dire une chose pareille maintenant, quelqu'un le met hors de lui, qu'il aille, qu'il danse, qu'il fasse une fête, on m'a fait du mal, beaucoup de mal. Mais évidemment, c'est un peu de mal que tu as passé, tu ne te prends pas pour un grand héros, hein, pour un Superman. Il faut être un Superman. Le roi David, que c'est l'histoire. Le roi David, il subit un putsch militaire de son fils, Absalom. Déjà, c'est pas très agréable de se faire putcher. Deuxièmement, par son fils. Et il est en train de monter pieds nus avec sa famille, en train de pleurer, il monte le mont des Oliviers. Lui, sa famille, sa cour, le reste des gens qui fuient comme ça, accompagné de quelques soldats, quelques généraux, vient le chef du Sanhédrin, Shimei ben Gera. C'est pas le chef des tribunaux qu'on a aujourd'hui. On parle du chef du Sanhédrin à l'époque du roi David. C'est quelqu'un, le grand de la Torah. Et qui commence à jeter des pierres et de la terre sur le roi David. Mais qu'il est l'année qu'il a nimretzet. David dira, il m'a maudit, il m'a insulté d'une insulte nimretzet. Nimretzet puissante. Chazal dit quoi nimretzet, c'est racheter votre tous les acrostiches, les lettres, chaque lettre signifie un mot. Nun, c'était Noef, t'as fait l'adultère, débauché. Le roi David dit ça. Nimet Mored. Tu t'es révolté contre le roi Shaoul. Rej Rotser, assassin. Tzadik Sorer, persécuteur. Taf, qu'est-ce que c'est? Toeva, horreur. Roi David, si déjà il est comme ça, prends-le de côté, parle-lui devant ses enfants, devant ses femmes, devant ses généraux, tu lui fais honte en public. Et pas n'importe qui. C'est marqué dans les lois de honte, quand on fait honte à quelqu'un. Hein. Un petit gosse qui fait honte à un autre petit gosse, c'est pas la même chose que t'as le grand de la génération, tu as l'autre grand de la génération et qui lui dit toutes ces choses-là. Ça n'a rien à voir. C'est d'après la valeur des gens, de celui qui fait honte, de celui qui a honte. Là, t'es les deux tops, peut-être, de l'époque. Une chose aussi terrible. Le général de David, son allié de toujours, Yoav ben Tsruya, sort son épée et dit au roi, laisse-moi, je vais tuer ce chien. D'après la loi juive, un homme qui fait une chose pareille, un roi juif d'ordre divin, qui a été sacré par un prophète, oint par un prophète, tel que était le roi David, est passible de mort tout de suite. Justice. Le roi David, il a, hein, le texte ne le raconte pas, mais on peut imaginer qu'il avait une guerre intérieure terrible. Ce type-là, maintenant. C'est pas non seulement qu'il m'a fait du mal, mais si, attends, si je ne réagis pas, moi je passe pour une mauviette par rapport à tout le monde, mes généraux, tout ça, mes enfants. Et là, je suis en putsch militaire, je vais montrer que je suis un roi solide. Là, je deviens une hyper mauviette. Et un roi qui est mauviette, c'est plus un roi. Donc il peut dire des bonnes combines pour dire que je m'attends une bonne... Non, j'aurais pas dû le faire, parce que moi, mon honneur, j'en ai rien à faire. Mais là, je peux pas, me... parce que c'est pour le bien de la royauté, etc. On peut trouver... Et ça, ah, il n'y a pas, il va faire une avéra. T'as raison. Et non, t'as raison pour toi, t'as raison, parce que, indépendamment de toi, t'as tout cas, il te met tout un dictionnaire de... On dit que le Yotzera, il connaît tout le chasse, tout la Gemara par cœur. Yotzera, c'est un Talmid Chacham plus grand que toi. Il sait toujours t'amener toujours un bon argument pour quoi, légitimer ce que tu veux faire. Le roi David lui dit, arrête. Elohim Amarlo Kalel. Dieu lui a dit d'insulter. Chazal dit, à ce moment-là, le roi David est devenu la quatrième roue du chariot céleste. Dieu agit dans ce monde, il lui faut un véhicule. Ce sont des personnes qui véhiculent la divinité. Il y en a trois, Abraham, Israël, Yaakov. Trois roues, mais ça branle encore. Il faut la quatrième qui stabilise. Peut-on, c'est une chose qu'on ne peut pas dire, si ce n'était pas écrit. Une personne de chair et d'eau qui stabilise la présence de la divinité sur terre. C'est pas un degré, c'est inimaginable. On aurait pu croire que le roi David est devenu ça quand il a fait les Tehillim. Il se levait toujours à minuit, il priait Dieu, il pleurait vers Dieu, il chantait, il a fait... Le roi David, c'est extraordinaire! C'est dans ces moments les plus durs de sa vie. Au moment où on le touche maintenant, dans ses midotes, dans son ego, dans les... Et là, il reconnaît, c'est Dieu, c'est pas moi. Quelqu'un qui reconnaît ça, vient le jour du jugement, il est nickel. Parce que c'est un vrai serviteur de Dieu. On l'a mis maintenant. Est-ce que c'est son ego, lui, qui... Pourquoi il fait des péchés à cause de son ego. Lorsqu'on reçoit comme cadeau dans la vie quotidienne, que quelqu'un vient, et même mon ego maintenant, à l'épreuve, et je réagis maintenant qu'il n'y a pas d'ego, grande victoire. Le deuxième truc que je voulais vous transmettre pour Rosh Hashanah. En parenthèse, si déjà on parle de cela, Rosh Hashanah, c'est le début de l'année. C'est le moment qui a en potentiel toute l'année. Comme dans n'importe quel domaine, la tête contient tout ce qu'il y a après. La tête, le corps vient après la tête, comme ça dit la Gemara. À la tête d'une chose, t'as... quelqu'un il a un concept maintenant, l'idée. Tout va suivre à partir de l'idée. Quelqu'un conçoit un enfant. Tout commence à la première, le petit spermatozoïde qui sort, il a en lui tout ce qu'il y aura chez l'enfant. En potentiel minuscule, mais tout y est. Donc, chaque mouvement, cette jour de Rosh Hashanah, on doit être nickel. Nickel parce que toute l'année dépend de cela. Qu'est-ce qu'on va faire les deux premiers soirs? On va faire les signes. On prend un peu de grenade, qu'on ait beaucoup de mitzvot cette année, de la pomme avec du miel, qu'on ait une année douce comme le miel, qu'on prend de la tête, qu'on soit la tête. Et les gens, ils oublient de faire tchouva, c'est le plus important qu'on ait ça, d'accord? Alors on doit le faire, Shulchan Aruch. Mais quelqu'un réfléchit un peu, ok, c'est très gentil qu'on ait un peu de miel. Je mangeais un peu de pomme et un peu de miel, alors mon année elle va être aussi douce que ça. On a vu, on n'avait pas des années si douces. Alors on le fait quand même parce que effectivement, en cette fête de Rosh Hashanah, chaque petit détail a son poids. Mais nous devons maintenant apprendre si le détail a du poids, alors l'essentiel, quel poids il a. Il faut faire très attention. à Rosh Hashanah de ne pas se mettre en colère. L'épreuve de ce jour-là, c'est ça, je le dis tout de suite. T'es en tension. C'est une journée qui est dure. On prie énormément. Il ne faut pas dormir normalement, il ne faut pas dormir les deux jours. Pendant la journée, c'est marqué que celui, c'est marqué dans le Talmud de Jérusalem, celui qui dort, alors son jugement, il dort aussi. D'accord, on va te juger, tu es absent. Alors d'habitude, quand il y a la... Tu peux dire quelque chose au juge, écoutez, c'est pas comme ça, tu peux t'expliquer, c'est bien, mais quand tu ne peux pas t'expliquer, tu es en train de dormir. Alors ton jugement, il n'est pas très bien. C'est pour cela que même les gens qui ne prient pas au net d'habitude, au lever du soleil, là c'est conseillé, c'est pas obligatoire, il y en a beaucoup qui ne prient pas, mais c'est conseillé, spécialement le jour de Rosh Hashanah, se lever très tôt avant l'aube, c'est donc 1h12 avant le lever du soleil, à la synagogue, et de prier pendant ce moment-là. On sait que le jugement a lieu les deux jours, les trois premières heures. Il y en a qui ronflent pendant ce moment-là. Tu es en train d'être jugé et tu ronfles, c'est pas le moment. Alors sois réveillé. Donc tu es réveillé dès tôt le matin. La journée entière, c'est bien de ne pas dormir, si possible. Toute la journée, jusqu'au soir. Les deux jours, si possible. Celui qui ne peut pas, alors après midi. D'accord, après midi, c'est-à-dire après le...
Tu ne dors pas la nuit aussi.
Non, la nuit, on dort très bien.
Sinon, c'est que la journée.
Voilà, que la journée.
Ah, d'accord.
Mais on est en tension, c'est difficile. Et on veut que tout soit nickel. Vient toujours le Yetzer Hara avec un truc qui est des fois tout petit. Tu t'énerves un peu. Tu t'énerves un peu, tu t'énerves que tu t'es énervé. Oh, t'as réussi à m'énerver. Là, tu deviens déjà tout rouge. Et très mauvais signe de s'énerver. Les deux jours de Rosh Hashanah. Quand on s'énerve, notre neshama de sainteté, elle part, vient à la place d'une neshama, une sorte d'âme mauvaise, qui nous habite. C'est terrible. Parce que ce jour-là, tu reçois énormément de lumière. Alors, tu es absent. C'est l'autre qui reçoit la lumière. C'est l'étranger qui est en toi. Je suis hors de moi. C'est quoi hors de moi? Moi, je ne suis plus dans moi. Il y a un autre, un étranger. Qui c'est? C'est une âme maléfique qui te rend. Qui te met hors, et qui on voit que les gens quand ils sont énervés, ils font des choses complètement fous, d'accord? C'est une âme maléfique qui rentre en lui. C'est lui qui reçoit maintenant le flux de lumière, t'imagines? Terrible. Faire attention de ne pas s'énerver. Et si on s'énerve, se calmer vite. D'accord? Même dans le cœur si possible. C'est l'épreuve de la journée. Oui, belle question.
C'était la même chose à Pessah. Il y a une différence ou pas?
Non, pas à Pessah. Non mon cher ami, tu comprends les croches de l'année passée. C'est bien, le temps passe vite. Donc ces deux trucs, pour essayer, Berat Hashem, de passer haut la main ce jour du jugement, être la collectivité du peuple d'Israël, et passer outre les mesures mauvaises que nous avons en nous, mettre plus haut la barre, c'est-à-dire moins facilement s'énerver.
Mais donc, oui. Je conçois que ce soit plus ou moins à la portée de tout le monde, c'est-à-dire de se calmer, de ne pas arriver à des mots, ou à des cas extrêmes de la violence ou quoi, mais dans la pensée, comment on arrive à canaliser ces flux de pensée quand on...
C'est marqué à quoi c'est marqué. On dit, je vais même courir dessus une fois sur internet, à quoi sert l'esprit tordu? Chaque chose que Dieu a mis dans le monde sert à quelque chose de bien. Les nerfs, ça sert. Des fois, il faut montrer aux enfants qu'on est énervé. Des élèves, comme vous, je peux énerver, je peux énerver, mais je montre que je peux énerver pour que tout aille bien comme il faut. Bah, au Hachem, si tout va très bien. La générosité, c'est bien. L'avarice, c'est bien aussi des fois, sinon quelqu'un il dilapiderait n'importe comment. À quoi sert l'esprit tordu? Qu'est-ce qu'il y a de bien là-dedans? C'est qu'il est tordu, il réfléchit comme ça. À tendre son esprit pour juger favorablement quelqu'un. T'arrives pas dans des circonstances atténuantes. Comme toi, tu es en train de le juger, comme ça on est en train de te juger dans le ciel. Vas-y, tu trouverais n'importe quel argument tordu pour dire que t'es innocent. Tu serais dans le ciel le matin, tu te trouverais un petit argument comme ça, t'en ferais une grande montagne comme ça. Fais la même chose sur l'autre. Tu y gagnes. Tof. On parle d'une chose maintenant qui est beaucoup plus profonde, je ne sais pas si on aura le temps. Bon, on va commencer avec l'aide de Dieu. Il faut Mishnaboura premier, Mishnaboura va. Il y a des choses qui sont très profondes, j'espère qu'elles vont être comprises comme il faut, parce que pas tout le monde les comprend bien. Il y a en nous deux personnes. La partie animale, qu'on peut appeler l'âme. Et la partie divine, qu'on va appeler le nous essentiel. Le nous essentiel fonctionne d'après des critères de vrai-faux. Ça veut dire, pourquoi tu étudies la Torah? Pourquoi tu fais des mitzvot? Pourquoi? Parce que c'est la vérité. J'aime la vérité, j'aime Dieu, j'aime le peuple d'Israël. J'agis parce que je suis mu par des motivations désintéressées. Ce n'est pas pour moi, c'est par amour de la vérité. Ça, ça marche quand nous sommes dans les états où nous sommes vraiment proches de notre nous essentiel, de notre moi essentiel. Très souvent, nous sommes beaucoup plus proches de notre âme. Par exemple, dans un exemple classique, le matin, quand je dois me lever, le réveil sonne. C'est-à-dire pour nous dire, je me lève maintenant par amour de Dieu, par amour d'Israël, par amour de la vérité. Oui, oui, c'est un beau discours, mais le lit est tellement agréable. Alors, il y a un autre parti en nous, qui est l'âne, qui ne veut pas se lever. Alors, lui comprend un autre langage. La carotte et le bâton. La carotte, il y a le mitzvah d'étudier, tu gagnes maintenant, c'est du sahar, tu auras du mérite, tu auras du olam haba, tu auras une meilleure vie dans ce monde. Non, des choses qui sont vraies aussi. C'est marqué que Dieu récompense les tzadikim et punit les rechaim. C'est pas des blagues. En tant que motivation idéale, c'est pas une bonne motivation. Mais on a en nous cette partie aussi à laquelle il faut parler. Mais durant notre vie, habituellement, on essaie toujours de déplacer le centre de motivation au nous essentiel et pas le laisser dans l'âne. Parce que c'est crétin d'être un âne. Quelqu'un l'étudie parce qu'il a peur d'aller en enfer. Il a peur des maladies. Il a peur d'un contrôle fiscal. Il veut avoir une bonne parnassa. Il sait que se rapprocher de l'étude avec la Torah, c'est bien. Faire des mitzvot, c'est bien. Donc j'y gagne. Ok, c'est légitime. C'est pas le mieux du monde. C'est pas le mieux du monde. Mais c'est un travail lent d'aller et progressif. Les enfants fonctionnent plutôt au niveau âne. Et on espère que les adultes deviennent adultes et commencent à fonctionner au niveau adulte de notre nous essentiel, de notre moi essentiel. Rosh Hashanah, et que Rosh Hashanah, il y a une chose qui est tout à fait nouvelle. Comme j'expliquais la dernière fois, le jour de Rosh Hashanah, il y a la malchut, il y a la royauté. Malchut signifie royauté, de Dieu qui se dévoile. Dieu descend dans toutes les sphères, arrive à la sphère la plus basse, la voie de conduite de Dieu la plus proche de nous, qui est la royauté. Dévoilement de Dieu dans toute sa splendeur en tant que créateur et roi. Le roi, c'est-à-dire qu'il a un plan, comme j'ai vu la dernière fois, et regarde toi dans quelle mesure tu t'insères dans le plan. Donc il y a du dit, il y a une justice maintenant. Je vais voir, je vais te juger, voir où tu es maintenant. Est-ce que tu es avec moi, tu es contre moi, dans quelle mesure tu es avec moi, et en fonction, je réoriente et je te donne maintenant des outils pour mieux ou moins bien me servir. En fonction, un bon employé, on lui donne plus, un mauvais, on lui donne moins. Quand on a expliqué cela longuement la dernière fois. Donc il y a un jugement. C'est le jour de Rosh Hashanah. Dieu vient et juge. Et bien sûr, le jugement, comme on dit, de Olam Haba, de Olam Hazé, le monde à venir, notre réalité spirituelle, Olam Hazé, notre réalité d'ici, qui en dépend, et personne ne veut, effectivement, on a peur aussi de se ramasser une chimiothérapie, ou un contrôle fiscal, ou je ne sais pas quoi, de désagréable, ou un scud sur la tête. Laura Allen. À Dieu ne plaise. Mais, vu que nous sommes habitués, durant toute l'année, à fonctionner de façon différente, on va dire que c'est un jour maintenant où il y a la crainte de Dieu. Mais de quel Dieu? Le Dieu qui frappe, ou le Dieu qui est, dont on a une crainte, mais parce qu'il est extraordinairement immense, grandiose dans sa royauté. Vient un roi, le roi rentre, tout le monde se met au garde à vous, on est tous en train de trembler de sa grandeur. C'est vrai. Mais il y a un point supplémentaire qu'il faut aussi travailler. Nous voulons que le dévoilement du royaume de Dieu se fasse dans tous les niveaux de notre être. Bien sûr, notre partie haute, le nous essentiel, doit voir la grandeur de Dieu. Elle est percevable le jour de Rosh Hashanah, c'est toute la prière sans cesse. La grandeur de Dieu, Hachem Lokim Emet, tu es éternel, tu es la vérité, tout le reste à part toi n'a aucune réalité, c'est que du vent, que de la fumée, ça disparaîtra. Il n'y a que toi, tu étais, tu es, tu seras Hachem Meler, tu es le roi, Hachem Malar, tu étais le roi, Hachem Mlor, tu seras le roi. C'est ce qu'on dit sans cesse le jour de Rosh Hashanah. En gros, c'est toute la prière. D'ailleurs, la Gemara dit, durant la fête de Rosh Hashanah, on a les prières habituelles, il y en a une qui est la spéciale, la plus importante, puis le Moussaf de Rosh Hashanah. C'est la seule fois de l'année où on a une prière de fête qui a 9 bénédictions. D'habitude, il y a 7. Il y a 3 d'entrée, 3 de fin et une du milieu. Comme ça, c'est un Shabbat, comme ça, c'est le jour de Yom Tov, comme ça, c'est un Kippour aussi. La seule fois, on aura trois au milieu, c'est la fête de Rosh Hashanah. Comment ça se fait? Il y a le Gemara, traité Rosh Hashanah, page 17, qui nous dit « Imru lefanai malchuyot »« Dites devant moi des royautés »« Amenat shetemlichuni alechem » afin que vous me prenez comme roi sur vous. Dieu veut que être mon roi. Je dois maintenant ressentir que Dieu est mon roi. Le prendre comme roi. C'est-à-dire qu'il est le boss. Il est le juge partout. C'est la mitzvah du jour. Comment on le fait? Imru lefanai malchuyot. Dites devant moi des royautés. On va citer 10 versets. 10 de la 3 de la Torah, 3 des prophètes, 3 des les Ktuvim, c'est un géographe. Donc on a le Tanakh, la Bible est divisée en 3 parties. On prend 3, 3, 3. On finit par un verset de la Torah. Qui est Shema Israël. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Un, c'est-à-dire il est partout. La totalité de la puissance, partout, 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 il est le maître de tout. On cite chaque verset, il faut peut-être préparer la prière, ceux qui ne savent pas, comprendre ce qu'il dit, ça n'a rien de dire comme ça, il faut comprendre, on parle de versets qui disent la royauté de Dieu. Les versets, c'est la Torah. La Torah, c'est les mots qui expriment le mieux la réalité. Donc on va citer des versets qui expriment la réalité de royauté de Dieu. Deuxième bracha des trois du milieu s'appelle Zichronot. Zichronot, c'est les souvenirs. Vu qu'il est roi, il prend maintenant le bilan, tout, il calcule tout, depuis le début de l'histoire jusqu'à la fin de l'histoire, pour voir comment toi tu t'es inséré dans le programme. De nouveau, on va citer 10 versets, on rappelle la faculté de Dieu du souvenir. Il calcule tout, il voit tout. Troisième, Shofarot. Shofarot, comment est-ce qu'on fait devant un roi? On sonne du shofar. On va expliquer plus tard le prochain cours. On n'en aura pas aujourd'hui. Pourquoi le chauffard? Qu'est-ce qu'il y a de si spécial dans le chauffard? La mitzvah du jour, en tout cas, c'est que ce soit Zichronot, Chauffarot et surtout Malfoyot, c'est royauté de Dieu. Tu es le roi, tu es le roi. Un roi, messieurs, c'est le point que je veux évoquer. Il ne doit pas être roi que dans ma tête. Il doit être roi aussi dans mes tripes. Tout le monde veut bien accepter dans la tête que Dieu est roi. Mais c'est l'âne aussi qu'il faut convaincre. Durant toute l'année, on va travailler pour déplacer de l'âne vers la tête. Servir Dieu avec la tête, s'il nous travaille de servir Dieu avec l'âme, c'est vrai. Le jour où Dieu vient, lui descend dans ce monde-ci, se dévoile, il faut aussi que nos parties tripes, nos parties ânes, ressentent Dieu. Maintenant, comment un âne ressent Dieu? Avec la grandeur du roi, avec la crainte du roi. Crainte, pas la crainte du roi en tant que grand roi, crainte de ce que ressent l'âne, les coups durs. C'est une chose qui est assez étrangère à nous, on n'aime pas la dire. Je cite maintenant ce que dit la Gemara. La Gemara pose que le Shulchan Aruch nous dit, on ne dit pas le Hallel. Tous les jours de fête, on dit le Hallel. Plus Hanouka, plus Purim, on dit le Hallel. C'est un jour de fête, Rosh Hashanah, qu'on dise aussi le Hallel. Hallel, c'est un jour de louange. On ne peut pas le dire. Pourquoi? Parce que c'est une sorte de chant à Dieu. Or, quand le roi vient, on ne fait pas un chant. On est au garde à vous, on ne dit rien du tout. Pas un mot. Pas un clin d'œil, pas un truc qui bouge. T'es le roi. On n'ose pas bouger. Pas se faire remarquer surtout. Alors pourquoi est-ce qu'on s'allume? Pourquoi est-ce qu'on s'habille avec des habits blancs, des beaux habits? Qu'on aille avec des silices, des habits déchirants, se faire juger, terrible. On a confiance que Dieu va nous juger. Favorablement. On a confiance. Il y a en tout cas une promesse pour le peuple d'Israël, c'est un peuple éternel. Néanmoins, on doit être en état de crainte, charet, de peur, de la émat, je ne sais pas comment traduire cela, de la crainte, de la peur du din de la justice. Va y aider par cela, nizachel ou nizrout. Alors, on est rappelé en mérite. Il y a un mérite d'avoir peur. Quand tu as vraiment peur du roi, le roi sent que vraiment il est ton roi. Dieu veut ce jour-là, nous demande, mettez-moi en tant que votre roi. Si tu lis le verset, et puis tu sens pas qu'il y a le roi ici, c'est pas ton roi, c'est de la blague. Il y a toi et encore toi. Que vaut ton ego? Quand tu as une annulation totale, de toutes les parties de ton corps, de ton être, qui ressentent que le roi est là. Ça, c'est la reconnaissance du roi. Et là, à ce moment, tu reçois une lumière de Dieu énorme. Parce que quand tu reçois Dieu comme roi, tu deviens son sujet. La Gemara dit, Eved Melech Melech, le sujet d'un roi, c'est un roi. T'as envie de voir le roi maintenant. Je veux voir Chirac. Comment je fais? Je fais une demande, je vais voir Ron Chayar, je vais voir Chirac. Bon. Jamais je serai reçu. Moi, je connais le serviteur du roi. Je connais celui qui va à son intendant, celui qui vient à manger. Il dit, tu peux intercéder? Il y a M. Chirac. Ron Chayar, c'est venu à moi, comme bien, j'aimerais avoir une entrevue avec vous, ça vaut la peine. Bon, dites-lui qu'il passe par les formulaires normaux, mais déjà, je peux te dire un mot, et hop, piston. Celui qui est proche du roi, celui qui est serviteur du roi, c'est comme un roi. L'intendant, il ne sert à rien. Il peut réussir à faire ce que plusieurs ministres ne peuvent pas réussir à faire. Il rentre chez le roi, celui qui lui fait son lit. Un serviteur du roi, c'est un roi. Quand moi, je reçois le roi, je deviens son serviteur, je sois content que mon roi, c'est moi, je suis son serviteur, je suis proche de lui. On est proche de lui. On a tout à gagner là-dedans. Alors comment faire? Non seulement avec ma tête, je vais comprendre que Dieu est dans toute sa grandeur, mais avec mon estomac, avec l'âme qui est en moi. Et ça fait partie de cette fête, une sorte d'épouvante. C'est une chose que je n'aime pas dire, mais ce jour-là, je le dis aussi. Il faut qu'on ait aussi peur des sales coups qui peuvent arriver. Pas que ça. Celui qui a que ça, alors c'est l'âne. Bon, c'est important aussi qu'un âne y sente. Un âne, il sait avoir peur du roi. Mais on n'est pas que des ânes. Il faut que toute notre personnalité, qui va depuis l'endroit le plus haut, les anges tremblent de Dieu. Je tremble de Dieu. Mais pourquoi je tremble? L'ange, il a peur des coups. Non, il voit la grandeur de Dieu, l'ange. Ma partie haute de moi-même, comme un ange, je vois la grandeur de Dieu, son éternité. Qu'est-ce que je suis, moi, petite? Dans le monde fini, j'ai une vie de rien du tout, de moustique par rapport à l'éternité de Dieu, et je peux lui parler, il vient, il y a de quoi trembler. Il y a de quoi trembler. Il y a mes parties hautes de mon être. Les parties basses aussi, mon vieux, fais tchouva. Et le profil un peu bas, reconnais la grandeur de Dieu, parce que sinon tu restes découpé aussi des sales coups cette année, et ça n'a pas de sales coups dans le monde. S'il n'y a que la dernière partie, l'âne, c'est petit. S'il n'y a que la grande partie de nous... Ça manque, parce que là aussi, Dieu veut descendre dans les endroits les plus bas de notre être. Ça fait partie aussi du service de Rosh Hashanah, que toutes nos parties de notre être reconnaissent sa royauté. Baruch Adonai, Amen.